Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'épisode numéro 35. Cette semaine, on parle de Alpine qui connaît des débuts un peu difficiles. Mais avant d'embarquer sur le sujet, je pense que vous avez vu la nouvelle mercredi matin. Bon, on va pas se le cacher, on enregistre même... en ce mercredi matin, exceptionnellement, mais on s'est levé avec la nouvelle comme quoi le Grand Prix d'Émilie-Romagne n'aura pas lieu cette fin de semaine en raison des inondations qui ont lieu dans la région d'Émilie-Romagne, justement, où se trouve justement le circuit d'Imola, mais aussi plusieurs autres villes dans la région qui ont été sévèrement affectées, où, aux dernières nouvelles, il y a 5 morts et plus d'un million de personnes qui sont grandement affectées. Donc, il n'y aura pas de course ce week-end et c'est la meilleure décision possible. Nos pensées vont à ceux et celles qui sont lourdement affectés par ces inondations et on vous souhaite que ça aille pour le mieux. Donc, voilà, pas de Grand Prix. En fin de semaine, on se reprendra à Monaco. Bon, parlons du vif du sujet. On va aller du côté de Alpine qui a été quand même, on va dire une déception. Mais pour parler de cela, je suis accompagné de Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria.
Salut Ado.
Comment vas-tu?
Très bien.
Oui, et puis on a tous les deux nos cafés pour parler d'Alpine exceptionnellement. C'est rare d'enregistrer un mercredi matin, mais ça se prend bien. Donc, on va parler d'Alpine qui actuellement se retrouve cinquième au classement des constructeurs. Mais disons que... tout compte fait, alors qu'on avait beaucoup d'attentes envers l'écurie, l'arrivée de Pierre Gasly pour remplacer Fernando Alonso, l'écurie est sixième à égalité avec McLaren. Donc, comparé à la quatrième place de l'écurie en 2022. Moi, j'ai envie de dire que Alpine, présentement, est la déception de cette saison. Quand on regarde les objectifs des autres écuries, moi, je pense qu'Alpine est une déception jusqu'à présent cette saison. Qu'est-ce que tu en penses, Ana Maria?
Oui, complètement. Ils ont comme raté les débuts. Pour les équipes qui sont pas à nos déclassements normalement, et c'est important de pas rater la première partie de la session parce que c'est là qu'ils vont aller chercher le plus de points possible pendant que les équipes qui sont en avant ils sont en train de régler les problèmes. Parce que c'est ce qui se passe que, par exemple, Mercedes et Ferrari, ils vont essayer de régler ces problèmes pendant que les petites équipes, c'est là qu'ils vont profiter. Et Alpine, il n'a pas profité, même s'il a eu l'occasion de profiter. Disons que Baku, c'est un échec total. Ça, c'était pas une question de performance, c'était une question de gérer l'équipe comme tal, parce que c'est des choses qu'on peut pas, comme on dit, on peut pas rater. C'est ta chance d'aller chercher le plus de points possible, et c'est là que tout va pour les pibes, que pour moi, Alpine, il a bien raté la session, et se sont trop concentrés dans Piastri, dans les départs d'Alonso, et je ne peux pas dire Gasly, oui, il a mal commencé, mais en classification, mais pendant en course, c'est différent, parce que je ne peux pas mettre toute la faute sur les pilotes non plus. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas forts. L'année passée, on pouvait dire, Alpine avec McLaren, mais c'est, c'est bien, mais cette année, non, mais parce que McLaren aussi va à la baisse. Mm-hmm. Et que c'est pire encore.
Et en plus, ben, on regarde un peu l'histoire de la saison en ce moment. Alpine a mal. Ben, le premier constat d'échec, ça a été Pierre Gasly qui s'est qualifié dernier, alors que, bon, il avait une voiture relativement instable en qualification et a perdu son meilleur tour en course en raison des limites de la piste sur le circuit de Sakhir, donc il s'est qualifié dernier. Oui, il a inscrit des points, mais je pense qu'une meilleure qualification les aurait aidés à aller chercher un peu plus que cela. Oui, Gasly a été quand même bon. Et en plus, il ne faut pas oublier que ben Gasly a fini 9e. Esteban Ocon, lui, a dû abandonner volontairement à cause des 3 pénalités qui ont été imposées. La première pour mauvais positionnement sur la grille. Ensuite, il y a eu la pénalité de 5 secondes, justement, qui a été mal exécutée. Qui s'est transformé en 10 secondes. Ensuite, il y a eu Jeddah en Arabie Saoudite où 8e et 9e, ça s'est quand même bien passé, mais peut-être pas au même niveau, surtout quand on finit derrière les Ferrari qui avaient un peu plus de rythme, et surtout un Charles Leclerc qui était parti 12e. En Australie, ça c'était évidemment le clash entre les 2 voitures roses. Azerbaïdjan, ben là, ça a été juste la catastrophe avec problème mécanique de Gasly lors de la séance d'essai, en plus dans une fin de semaine sprint, et en plus l'accident qualification. Esteban Ocon qui est parti de la ligne des puits, en plus d'avoir une stratégie de partir en dur et de rester jusqu'à la toute fin, pensant qu'elle allait avoir une voiture de sécurité pour aller chercher le minimum de points possible. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ben, Miami, 8e et 9e pour les 2 pilotes français, dans un week-end où justement Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, a poussé, disons, une gueulante solide, pas seulement avec Canal+, mais aussi... une entrevue avec Lawrence Barreto sur le site officiel de la Formule 1 qui, en général, Rossi est en colère devant le dilettantisme d'Alpine. Donc, disons, on pourrait dire les efforts minimales de l'écurie. Il dit qu'il va y avoir des changements avant la saison si jamais il n'y a pas de... ou si jamais la situation ne se... corrige pas d'ici les prochains Grands Prix. Donc, ce qui veut dire probablement que Otmar Szafnauer pourrait être le premier à se faire montrer la porte. Mais est-ce que cette sortie de Rossi est nécessaire à ce moment-ci de la saison?
C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que tu règles les choses à l'interne. Tu n'as pas besoin publiquement de dire quelque chose sur le dirigeant de l'équipe pour le faire. Tu n'as pas besoin de, comment dire, tu n'as pas besoin de mettre de l'huile sur le feu. Mm-hmm. Toi-même, parce que c'est quand même, je comprends que le dirigeant, il veut sauver la face, c'est la compagnie, il dit, mais là, je vais mettre la faute sur lui, et moi, mais à la fin, c'est où qui l'on a appelé pour diriger l'équipe, c'est où qui l'on a appuyé dans toutes ces décisions, mais à la fin, je pense que c'est une mauvaise idée fait de sortir comme ça, en plus que si tu vas congédier Osmar, tu penses que ça va régler les problèmes tout de suite? Comme tu l'as dit, il y a eu des problèmes sur le Grand Prix. C'était pas juste lui, c'était problème dans l'équipe. Ils sont mal exécutés des pénalités. Il y a eu des erreurs, il y a eu des vitesses. C'est pas toute la faute des pilotes non plus. Ouais, et quand tu vois ça, tu dis, ça ne peut pas se régler juste en changeant les CO de l'équipe.
Ben, c'est ça. C'est, moi, je trouve, ben, j'ai pas pu voir l'entrevue complète. Parce que c'est j'ai bloqué évidemment, puis mon VPN a expiré. des articles que j'ai pu lire un peu partout sur le net, moi je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. En plus que l'objectif de Renault, bien que louable, je pense que c'était un peu trop réaliste. Il voulait se rester comme la meilleure des autres écuries. Parce qu'ils ont quand même fini quatrième. Ils ont fait une bonne saison en général en 2022. Mais pour moi, je crois que aussi la raison pour laquelle Laurent Rossi y est allé de ses commentaires, surtout sur place à Miami avec les médias, c'est parce que il y a beaucoup d'écuries qui ont eu de meilleures qui ont leapfrog Alpine. Je dirais pas McLaren parce que même si l'équipe est cinquième à égalité avec Alpine, McLaren a ses débuts de saison difficiles, mais c'est Aston Martin le problème. Parce que la saison dernière, Aston Martin a fini bien derrière Alpine. Mais cette année, c'est l'inverse. Présentement, l'équipe est deuxième. Donc, on estimait que Alpine allait gagner quoi 2 secondes, mais lors des essais, ben on a vu que ça n'a pas l'air être le cas. Donc moi j'ai l'impression que de ce que j'ai pu lire, je pense les commentaires de Laurent Rossi, c'est beaucoup trop. Non seulement c'est beaucoup trop tôt durant la saison, mais je trouve que ça n'aide pas la cause de l'équipe. Oui, ils ont fait une bonne performance à Miami, surtout avec Gasly qui s'est qualifié cinquième, a fait un très bon départ à Miami, et Ocon qui a été dans les points, dans des positions de points assez régulièrement dans cette course. Mais moi, je pense que c'est pas une bonne idée de la part de Rossi de venir dire ses propos publiquement. Je sais pas, je sais pas s'il l'a fait sur place, s'il l'a fait aussi savoir à l'équipe avant d'y aller de ses propos, mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt, c'est pas nécessaire non plus. Surtout que c'est, bon, je sais pas si Alpine allait avoir comme plusieurs écuries, des changements majeurs à l'arrivée de la période européenne de la saison, bon, qui va être maintenant Monaco ou probablement Espagne, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire dans ce moment-là pour le PDG d'y aller de commentaires pour disant « Ah, si ça continue comme ça, ben il y aura des changements avant la fin de la saison. »
Oui, c'est ça. Il y a aussi que tu dis, c'est trop tôt pour aller avec les commentaires aussi. Et je pense aussi que les attentes étaient trop hautes parce qu'ils n'ont pas compris l'année passée. Oui, la saison passée, il était bien, il était quatrième, mais aussi, il ne pouvait pas avoir la bonne chance tout le temps. C'est parce que, comme tu l'avais dit, Aston Martin, l'année passée, il n'a pas performé du tout. Il était derrière. Et là, c'est quoi l'équipe qui profitait? Il profitait Alpine. Il profitait Alpine. Il était McLaren aussi. C'est que je dis, tu ne peux pas t'attendre que les choses continuent bien au mieux quand on n'a pas vu vraiment de développement pendant la session passée. On n'a pas vu trop de travail. Parce que si on se rappelle bien, Alonso, ça a été des abandons, des problèmes mécaniques pendant toute la session. Et on ne peut pas s'attendre qu'on commence la session, on n'a pas réglé les problèmes et qu'on va performer pareil quand toutes les équipes, je pense, qu'ils ont amélioré, à l'exception de Ferrari qui a un peu échappé. Ferrari qui n'était pas dans la bonne sens, et McLaren qui a mis tout sur le dos de Ricciardo et que maintenant il se retrouve avec un Piastri qui a pas la voiture pour faire grand chose. Et qu'on ne peut pas travailler de cette façon-là, parce que maintenant lui dit oui, il faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose, mais quoi? Et on le résout pour le faire. Tu vas débloquer toutes les bougies.
Et c'est ça aussi, c'est que quand on regarde l'année dernière, le développement d'Alpine était agressif, mais efficace. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à finir quatrième au championnat des constructeurs l'année dernière, malgré de nombreux problèmes mécaniques dont tu fais mention à Maria. Et on pensait que ça allait être le cas. Et quand je disais pour cette année, et surtout l'objectif de gagner au moins 2 secondes par tour, mais là, après 5 courses, le gain est de 6 dixièmes. 6 dixièmes, c'est minime, ça, comparé à l'objectif. Donc, moi, en même temps, je me dis, est-ce que Alpine est trop ambitieux? Ce qui est normal, mais je les plains pas d'être ambitieux, surtout avec la saison qu'elle a connue l'année dernière, mais est-ce que c'est trop ambitieux? Et surtout dû au fait que, évidemment, l'année dernière, quand on avait enregistré l'épisode concernant toute la saga Alpine, Piastri, McLaren, moi j'avais mis un peu la faute sur Otmar Szafnauer concernant toute la débâcle avec Fernando Alonso et Piastri qui sont partis en faisant d'une pierre deux coups. Mais je crois que probablement la faute revient plus à Rossi lui-même qui non seulement n'a pas assuré de garder Alonso, mais n'a pas été en mesure de tenir promesse à Piastri qui lui a trouvé une porte de sortie assez phénoménale, si on peut le dire. Donc, en même temps, je ne sais pas si je pourrais dire que Rossi, non seulement est trop ambitieux, je le comprends d'être ambitieux, mais un peu, mais je pense qu'il est beaucoup trop ambitieux concernant les objectifs. Mais en même temps, il a placé un peu son écurie dans une situation un peu plus compliquée. Et je pense pas que Szafnauer est responsable de tout ça. Je pense qu'il fait du mieux qu'il peut en ce moment là. Donc, je pense que la tactique de Rossi, elle est pas vraiment efficace en ce moment. Enfin, on verra si ça a donné un coup de pied au derrière. Mais même malgré ça, je sais pas si ça va vraiment fonctionner là.
Mais tu sais, Osmar, il se laisse pas intimider non plus. Lui, il reste tranquille. Lui, il va rester tranquille. Il dit que ça l'attend pas. Même, tu te rappelles quand il était à Aston Martin, même si tout le monde il disait que sa sortie était proche, lui, il restait comme calme et ça comme ça ne changeait pas grand-chose à ce qui s'est passé dans l'équipe. C'est ça ce que je veux dire. Que maintenant, Rossi fait la même chose. Et on voit que l'année passée, comme tu avais dit, son stratégie n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas assuré, il n'était pas capable d'assurer Piastri, mais il n'a pas assuré Alonso non plus. Mm-hmm. Il voulait, lui, il était ambitieux parce qu'il disait qu'on va jouer avec les deux. À la fin, on décide. Il n'était pas capable de le faire. Finalement, c'est les pilotes qui ont décidé eux-mêmes. Parce que là aussi, ils deviennent, ils essayent de réveiller l'équipe, mais en même temps, ce n'est pas la bonne façon de le faire. Et je ne pense pas que ça ne va pas marcher trop.
Non, c'est ça, parce que regarde, on a déjà 5 courses de complétées sur une saison de 23, 22, bon, si on exclut Imola maintenant. Et je comprends, c'est pas un début de saison, c'est pas un début de saison incroyable pour Alpine, mais c'est surtout aussi parce que le truc, c'est un des plus gros points forts de cette écurie, c'est comment ils opèrent. Et là, cette année, ça a été, et ça, je vais donner raison à Rossi, il y a eu une succession d'erreurs après erreurs. Je parlais de Bahreïn, qui en était un. Australie, c'était la catastrophe totale. Azerbaïdjan, avec Gasly qui accidente sa voiture en qualification, c'était pas brillant non plus. En plus de la stratégie de laisser Ocon avec les durs jusqu'à la toute fin pour finalement obtenir nada. Donc, c'était probablement le point fort d'Alpine d'être efficace au niveau opérationnel. Mais là, cette année, c'est pas tout à fait le cas. Et aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai, à chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression de voir la même histoire. C'est que, bon, depuis le retour de Renault, en 2016, j'ai vu toutes sortes de déclarations disant « Nous, notre objectif, c'est d'être champion d'ici telle année. » Mais à chaque fois, ce n'est pas le cas. Cette équipe s'est souvent battue pour le milieu de peloton, souvent meilleure des autres, mais jamais pour une position de champion du monde depuis leur retour officiel en Formule 1, même si ils ont changé de nom officiellement depuis 2021. Mais c'est ça que je dis, c'est souvent ambitieux, peu importe que ce soit Renault ou Alpine. J'ai entendu dire qu'on se donne un plan de 3 ou 5 ans pour construire une voiture capable de se battre pour le championnat du monde. Ça n'a jamais été le cas. Là, il y a eu la décision de signer Daniel Ricciardo était bonne parce qu'au moins, ça leur a apporté des gros points avec un Nico Hülkenberg et un Esteban Ocon qui a fait relativement le travail. Ensuite, bon, avec Alpine, bon, cette victoire surprise en Hongrie 2021 avec un Fernando Alonso qui a été capital. 2022 aussi, ça a été bon malgré les problèmes, mais cette équipe a jamais été dans une position de se battre pour le titre. Donc, c'est pour ça que je pense que cette équipe est un peu trop ambitieuse et j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai aucun souci là-dessus. Mais il faut aussi relativiser ses attentes quand ça ne va pas très bien et surtout de ne pas y aller avec des gueulantes comme ça. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Anna-Maria, là-dessus.
Oui, c'est ça. C'est ce que tu disais, que Alpine, Alpine, Renault, peu importe, parce que ça devient la même chose. Et c'est jamais... Ils sont en train de dire que bon, c'est batailler pour les championnats, mais on n'a jamais vu... J'ai jamais vu dans les temps, depuis que Lotus était Renault, ils disent oui, on va aller pour les championnats, on se donne de 3 à 5 années après, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Avant, ils se faisaient pousser au moins pour Red Bull. Quand ils donnaient les moteurs à Red Bull, ils se faisaient pousser tout le temps parce que Red Bull, ils voulaient la performance de son moteur et ils voyaient que ça les manquait. Mais après, quand Red Bull est parti, ils ont dit oui, mais c'est bien, ils vont partir, nous, on va performer, ou ils vont s'écraser ils vont s'écraser avec Honda, et finalement, c'est au contraire. Renault va de plus en plus en retraite pendant que Red Bull gagne les championnats. Fait que je vois que ça, de pas avoir des clientes pour opportunité de potence, ça, je pense que ça fait mal à l'équipe parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas comme un vrai objectif. Ils se tiennent en Formule 1, mais il n'y a pas de clients qui les poussent derrière pour performer au moins l'unité de potence, faire quelque chose. Et c'est là où je dis, ça manque, la manque de clients. Je pense que ça les fait mal comme tal à Renault et ça ne peut pas. Ils ne vont pas tenir longtemps comme ça.
Et
à chaque fois, c'est un échec. Et comme tu l'as dit, c'est Renault, c'est Alpine. Ils changent de nom. Mais j'ai parlé, ça fait quelques jours avec quelqu'un. Je disais, le problème de Renault, c'est le même de Ferrari. Parce que c'est la philosophie Renault qui les empêche d'aller à l'avance.
Ouais, c'est pour ça que j'aime pas parler en mal d'une équipe. Déjà que je le fais avec Ferrari quand ça va mal. Mais...
Non, mais tu parles pas mal. Tu dis les choses comme elles sont. Oh, il faut clarifier aussi.
Ouais, il y a ça aussi. Mais,
oui.
je regarde aussi du côté d'Alpine. Puis surtout, quand je lis les commentaires des dirigeants année après année... C'est pour ça que à la fin j'ai comme l'impression que j'ai l'impression que c'est le jour de la marmotte chez Alpine ou Renault ou Lotus, peu importe, de Team Enstone, parce que ils sont ambitieux mais ne relativisent pas les attentes. Et je sais pas pourquoi, est-ce que j'ai l'impression que cette équipe semble meilleur avec Fernando Alonso, parce que, bon, c'est trop tôt pour le dire, ça va bien avec Aston Martin, mais j'attends encore le moment où les choses vont mal pour voir comment Fernando Alonso va réagir quand les choses vont aller mal chez Aston Martin. C'est beaucoup trop tôt pour parler. Mais du côté d'Alpine, est-ce que je me pose aussi la question, est-ce que c'est trop tôt pour dire que cette équipe manque un genre de Fernando Alonso, un genre de meneur, parce que j'ai l'impression que oui, je pense que Gasly fait le travail, il fait bien, la voiture ne livre pas aussi la performance espérée, mais Alonso, on l'a vu dans toutes les équipes où ils ont été, à part peut-être son deuxième passage chez McLaren, a été capable de pousser cette équipe au maximum. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est trop tôt pour dire que Alonso manque à Alpine?
Mais on pourrait dire les choses comme elles sont. C'est sûr qu'Alonso manque à Alpine. Parce que quand même, lui, il fait de bon travail. Quand lui, il y a l'appui derrière, ça va marcher. Le problème avec Alpine, c'est que cet appui il est disparu très rapidement. Il était arrivé. En Ferrari, c'était un peu plus tard. J'ai l'impression de que avec Fernando, ça arrivait comme avec Vettel. Lui, il est arrivé plein d'énergie, plein à faire tout pour l'équipe. Il était content, il y avait tout le monde à son côté avec qui lui, il voulait travailler, mais ils ont venu casser la boule avec Leclerc. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Fernando. Lui, il était arrivé tout content avec Renault. Tu te rappelles, le retour avec Renault, avec les années Alonso, les deux championnats, même que lui a paru dans dans un Grand Prix habillé avec la chandail noir et jaune de Renault, il était tout allé bien jusqu'à que ils sont arrivés, ils ont tout chamboulé parce qu'ils ont changé ça pour Alpine. Et Cyril Abiteboul, qui s'avait battu pour l'équipe, il était mis de côté aussi. Fait que tout le monde qui allait travailler avec Fernando, qui ont réussi à le ramener en Formule 1, il est comme disparu. Que lui, il se retrouve dans l'équipe. Oui, il essaye de faire de son mieux, mais il s'est fait mettre au con. Mais maintenant, on a un pilote français. ils ont sorti un ballon parce que c'est l'écurie française, avec un pilote français. Fait que je pense aussi que Fernando était un peu mis de côté. Et c'est là que les choses ont commencé à pas marcher parce que tu sais, Fernando, si les choses ne marchent pas comme il veut, il ne se laisse pas faire. C'est lui, il aime travailler que le monde il l'écoute. Mais Renault, Alpine, l'année passée, il a commencé un peu laisser entendre comme quoi il n'y avait pas trop de problèmes mécaniques. C'était plutôt Fernando qui n'était pas à l'aise, il n'était pas content, il était peut-être pas performant. Pas si vrai, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est là le problème. Mais oui, on connaît Fernando, on sait que lui, s'il va bien, tout est beau, mais oui, quand les choses ne vont pas, lui n'est pas à l'aise, mais il n'est pas content. Parce que je pense que c'était le gros erreur aussi d'Alpine. Et j'aurais dit à l'avance à Fernando de que bon, on ne va pas te garder. C'est tout. Il n'y avait pas à faire la chicane, ils ont pas, ils ont laissé entendre qu'il allait rester attendre. Mais je pense que ça vient de haut, ça vient pas de boss de l'équipe non plus.
Et j'ai envie de lancer ça aussi dans la conversation. Est-ce que Alain Prost manque à Alpine? Parce que l'année dernière, Prost fut remercié par Alpine, bon, où il a quitté Alpine, lui qui était avec le groupe Renault depuis le rachat de Lotus en 2015. Et évidemment, je pense qu'il ne l'a pas, il n'a pas très apprécié la décision d'être remercié ou de quitter Alpine. Et je cite dans un article de Automoto qui a été publié en janvier 2022, disant que la volonté de Rossi, c'est d'être seul, de ne pas être pollué par qui que ce soit. Il m'a d'ailleurs dit lui-même qu'il n'avait plus besoin de conseiller, qui était justement le rôle de Prost. C'était au Qatar. Il m'a même quand même proposé un contrat à Abu Dhabi que j'ai refusé. Il faut quand même dire que c'est un projet auquel je croyais et je crois encore. Il faut quand même dire que c'est un projet auquel... un projet ambitieux, pardon, qui a redonné une motivation incroyable au niveau du groupe. Mais désormais, il y a une vraie volonté de mettre à l'écart beaucoup de monde. Laurent Rossi veut toute la lumière. Et ça, c'est en janvier 2022. Bon, il y a une saison qui s'est déroulée et qui s'est quand même bien passée dans les circonstances en piste avec la quatrième place. Mais là, on arrive genre... plus d'un an plus tard, cinq grands prix plus tard, et là Rossi nous arrive avec cette discussion, avec cette voyons comment ça s'appelle, avec cette sortie à Miami. J'ai l'impression que Prost a quand même raison dans cette vanne-là. Donc, j'ai quand même l'impression que Renault ou Alpine auraient été mieux avec Prost encore en ce moment, comme Mercedes a eu avec le regretté Niki Lauda aussi pendant leurs belles années aussi, de 2014 en 2019, où, disons, il était un genre de conseiller ou président non exécutif avec Mercedes. Donc, t'avais Wolf Toto Wolff qui avait Lauda à ses côtés pour toutes sortes de prises de décision et tout ça. Mais là, le fait que Rossi, quand il a remplacé, je pense, Dimeo à la tête d'Alpine comme PDG, ben là, le fait de dire ben, j'ai plus besoin de toi, bon, ça commence à faire mal.
Mais c'est ça, mais comme tu l'as dit, les mêmes profs, lui, il veut prendre la lumière, mais maintenant, lui, il a l'attention. Mais c'est pas bon quand ça va mal.
Ouais.
C'est ça le problème. Quand ça va mal, c'est pas bon avoir toute l'attention sur toi, parce que tu mets la faute sur les autres, mais à la fin, c'est ses propres décisions qui ont amené à ça. Mm-hmm. Et maintenant, peu importe ce qu'il lui a dit, ça ne va pas améliorer la performance de l'équipe parce que, comme tu l'as dit, il y avait Prost, il y avait Fernando. Tu vois, c'est sûr que Fernando, quand ça va mal, il n'est pas content, mais tu vois comment est ton Martin. Tout le monde est content de travailler avec lui. Tout le monde dit, ben, lui est content, il amène toute sa énergie qui fait que tout ça marche mieux. Je ne dis pas que lui, c'est un ingénieur qui va faire la voiture, non. Mais au moins, le monde, il a le goût de travailler.
Mm-hmm, ouais.
C'est pas la même énergie que Rossi amène à Alpine.
Ouais, mais j'ai hâte de voir comment la suite de la saison va se dérouler pour Alpine, parce que si les propos de Laurent Rossi ont donné un coup de fouet à Alpine, tant mieux. Mais si la situation stagne, ça ne va pas être beau dans le clan français, dans le clan français à Enstone, parce que je pense que il va exécuter les tâches ou il va mettre en branle les menaces qu'il a fait de vouloir changer les trucs avant la fin de la saison. Donc j'ai hâte de voir, mais j'espère que c'est pour le mieux parce qu'actuellement Alpine est sixième à égalité avec McLaren, qui a marqué des points gracieuseté à Alpine et de leur bourde monumentale en Australie. Les gros points, en fait, de McLaren sont spécialement dus à ce chaos en Australie où les deux pilotes français se sont accrochés en fin de course. Donc, je pense que Rossi, en plus d'Azerbaïdjan et Bahreïn, là encore... de travers. Donc, j'ai envie de dire que peut-être les meilleurs jours vont venir chez Alpine, mais on est seulement à la cinquième manche. Ben, on a déjà cinq manches de compléter sur 22-23, là. Donc, c'est à suivre. Alors, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Laissez-nous savoir, est-ce que vous pensez qu'Alpine va pouvoir remonter la pente après... début de saison relativement difficile. Est-ce que vous pensez qu'Alpine est la déception de la saison? On est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à partager le contenu aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Et nous sommes sur ces plateformes @lebulletingp en un seul mot. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP et là, il y aura un après-course, celui-là du Grand Prix de Monaco. Et on va aussi revenir sur les 500 000 d'Indianapolis. Donc ce sera un après-course Monaco et Indy 500, qui va être probablement publié tard dimanche ou bien même lundi, tout dépendamment. Donc, évidemment, n'oublions pas que le Bulletin GP aussi est disponible et rejoignable aussi via le groupe Facebook La Monoplace, un groupe Facebook de F1 au Québec. Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Adou.
Ça me fait plaisir. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Portez-vous bien et surtout, faites attention à vous. Salut tout le monde!